J'ai-tu mis assez de légumes dans leur lunch? Oh my God, faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Mental note, sortir le poulet du congé pour souper.
Est-ce que tu te sens dépassé par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut, je m'appelle Eve. Je suis coach certifiée en santé holistique pédiatrique. C'est après un diagnostic de maladie auto-immune à l'âge de 30 ans que je me suis juré que j'allais tout faire pour pas que mes futurs enfants se retrouvent dans la même situation. Avec mon service de coaching, j'aide les mamans à se sentir outillées et confiantes de prendre des décisions éclairées pour la santé de leurs enfants. Je les accompagne dans la mise en place d'habitudes saines et durables pour supporter leur famille de façon naturelle. Dans le podcast, seul ou accompagné d'un invité, j'aborde des sujets variés dans le but de t'informer, te donner des trucs ou de vulgariser des informations pas toujours simples à comprendre. Mon but, c'est que chaque épisode te fasse réfléchir pour que tu puisses faire des petits pas sans passer des heures sur le sujet. Parce que tu sais, t'es maman, t'as pas besoin de t'en rajouter. Oublie pas de t'abonner pour pas manquer un épisode. Que tu sois en train de bien brasser de lavage, faire la vaisselle ou en chemin pour aller chercher les enfants en garderie, je te souhaite une bonne écoute. Avertissement. Ah oui, prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut à toi, bienvenue sur l'épisode 25 du podcast Petit pas santé. Aujourd'hui, je te présente un épisode qui complète un peu les deux épisodes précédents. Étant donné que c'est le mois de la sensibilisation à l'autisme, j'avais envie de donner de l'espoir aux parents qui vivent avec un enfant qui a des défis, soit un TSA, un TDAH, un trouble neurodéveloppemental. En fait, je suis tombée sur mon invité un peu par hasard sur les réseaux et mon œil a été attiré automatiquement parce que ça s'appelait la Gut Psychologist. Alors, si tu me suis sur les réseaux ou si tu écoutes ici le podcast, je donne des ateliers sur la santé gastro-intestinale en lien surtout avec le système immunitaire, mais on sait maintenant que c'est aussi beaucoup relié à la santé du cerveau. Donc, un très grand axe qui s'appelle l'axe intestin-cerveau qui gère beaucoup de choses et le microbiote intestinal en soi, c'est tout un organe qu'on découvre encore et encore mille et une facettes. Donc, Sophie, la gut psychologist, parlait de la diète GAPS. Cette diète-là, moi, je la connaissais déjà, pas en détail, mais je connaissais les pouvoirs de cette diète-là de par mes formations en coaching santé, plus particulièrement ma dernière formation avec Epidemic Cancers, dans laquelle on parlait beaucoup de, justement, de conditions, de troubles neurodéveloppementaux et tout. Et je sais pertinemment que cette diète-là en aide plusieurs. Alors, j'avais vraiment envie de parler à Sophie. Alors, Sophie est psychologue clinicienne. Elle fait aussi de la recherche, si j'ai bien compris. Elle utilise la diète GAPS avec ses patients. Alors, je te la présente tout de suite. Allô, Sophie!
Bonjour tout le monde. Bonjour, Eve. Je suis super contente d'être là. Donc, merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir qui es-tu, d'où viens-tu, ton parcours. On apprend à te connaître un petit peu.
Oui, parfait. Ben voilà, donc moi je m'appelle Sophie Delaunay Vagnacindi. J'ai un papa français et une maman italienne, d'où mon nom de famille assez particulier. Je suis donc, psychologue, initialement psychologue du développement. J'ai fait un master en psychologie et développement au Royaume-Uni, en Angleterre. Et puis après, j'ai complété aussi avec un master en psychologie clinique. Donc, je suis aussi clinicienne. Et ces deux masters, justement, m'ont un peu amené cette optique à la fois un peu biomédicale de diagnostic, traitement, et à la fois avec le côté plus clinique. Alors là, on est plus dans l'écoute du patient et l'accompagnement, le travail thérapeutique. Et donc, voilà, ça représente justement ces deux intérêts que j'ai toujours eus. Et je suis formée à la méthode GAPS, voilà, comme tu disais si bien, Il y a 3 ans, j'ai décidé de suivre cette formation aussi parce que j'étais à fond dans tout ce qui est l'axe intestin-cerveau, à la fois pour des raisons personnelles, mais surtout professionnelles par rapport à l'autisme. J'avais vraiment commencé à lire, j'avais fait des travaux de recherche sur ça en Angleterre, et donc j'avais commencé à m'intéresser à cette littérature, et ça m'a passionnée. Et donc, peu à peu, j'en suis arrivée là.
Super. Puis, en fait, tu fais de la clinique, mais tu fais encore de la recherche?
Oui. Donc, depuis bientôt 4 ans, en fait, avant même de commencer à avoir des patients, comme ma période, on va dire, de fin d'études a été en plein confinement, avec tout ce qu'on... Voilà, on sait ce que ça a amené comme complications. Et donc, oui, mon premier engagement professionnel a été de faire de la recherche pour une ASBL aux États-Unis. Voilà. Et donc, j'écris des études de cas avec des collègues aux États-Unis surtout. Après, j'ai aussi une collègue en France. On est, avec la technologie, on est une équipe assez internationale. Et on travaille sur des études de cas, principalement de personnes qui suivent le protocole GAPS, donc la diète GAPS dont tu parles. Et on voit les résultats. Et il y a des résultats très positifs. Donc ça, c'est passionnant. C'est génial d'avoir à la fois de suivre les progrès de mes patients, mais aussi d'avoir cette autre casquette de chercheuse et de voir ce qui se passe pour peut-être certaines pathologies que moi, je ne verrais pas automatiquement à mon cabinet, puisque c'est des maladies un peu plus physiques, alors que moi, bien évidemment, ouais, étant psychologue, je suis un peu plus dans l'axe intestin-cerveau, mais il y a un axe intestin, beaucoup d'autres, ouais, choses, santé digestive, santé hormonale, enfin, il y a tout autant d'axes qu'il n'y a d'organes dans notre corps. Donc,
ouais. Oui. Oui, le microbiote. J'ai lu un article dernièrement qui parlait qu'ils viennent de découvrir qu'il y a certaines familles de microbes dans le microbiote qui déterminent la santé d'une une pathologie par rapport aux yeux, à la vision.
Oui.
Donc,
ouais,
c'est vraiment... ouais. C'est à l'infini. On commence à gratter là, pour comprendre vraiment.
Oui. Heureusement, là, depuis quelques années, ça explose, la recherche. Mm-hmm. Alors qu'il y a 10 ans, justement, le docteur Campbell McBride, donc, qui a fondé la méthode GAPS et la diète GAPS, quand elle a commencé à parler de tout ça il y a 20 ans, on se demandait vraiment, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui. Alors qu'en fait, maintenant, c'est une pionnière d'une approche qui est de plus en plus populaire, que ce soit de plus en plus populaire et de plus en plus recherchée et validée scientifiquement, et que ce soit... avec le régime GAPS, donc la diète GAPS, ou d'autres régimes qui existent, il y en a plein, mais ils ont, ouais, tous le même objectif, qui est de réduire l'inflammation, de rétablir l'équilibre de la flore intestinale entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, d'aller boucher les trous de la paroi intestinale. Les objectifs sont les mêmes. Donc,
ouais. Donc toi, en clinique, mm-hmm, tu travailles principalement avec des enfants, des adultes, des...
Alors, moi, je suis spécialisée en psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et de, ouais, la famille. Donc, mm-hmm, ça veut dire qu'au final, ça peut être des enfants, tout comme ça peut être les parents des enfants, ensemble, mm-hmm, ou en individuel. Non, ce n'est pas du tout uniquement les enfants. Pareil pour lorsque je travaille plus avec la méthode GAPS. Ça m'arrive de travailler avec des adultes avec des maladies immunitaires ou des adultes très anxieux qui aimeraient aussi travailler sur cet axe-là. Donc, ouais, ouais, un peu de tout, on va dire, mais contexte famille, effectivement. J'ai cette spécialisation-là, donc la plupart du temps, je travaille avec des familles.
Donc, tu as dit tantôt, tu disais que tu as commencé à t'intéresser. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à... penser, à vouloir investiguer plus, justement, à comprendre plus cet axe-là, puis le lien avec la santé gastro-intestinale?
Oui. Alors, en fait, ça a été en plusieurs étapes. Je ne pourrais pas dire que c'était un moment particulier, mais pendant mon bachelier, alors, je ne sais pas, ma licence, enfin, ça change.
Un bac.
Le terme, voilà, le terme change en fonction des pays. Pendant mes 3 premières années de psycho, donc les 3 premières années plus générales, quand j'avais, je pense que j'étais en deuxième, donc je devais avoir 19 ans, mon oncle, le frère de ma mère, m'a dit « Oh, il faut absolument que tu lises ce livre, ça va trop t'intéresser. » Et ça s'appelait, c'est un livre qui a été un best-seller, si je ne me trompe pas, « Le charme secret de ton intestin », Je suis plus sûre exactement du titre ni de l'auteur, mais c'est un livre allemand écrit par une médecin, si je me souviens bien. C'est Le charme secret de ton intestin. Ça, je suis assez sûre du titre. Et donc, c'est un livre qui couvrait voilà, comment la santé intestinale peut être liée à beaucoup d'autres choses. Je me rappelle encore dans le premier chapitre, voilà, elle discutait de certaines personnes déprimées qu'elle avait rencontrées, de la corrélation qu'elle voyait entre la dépression sévère et les troubles digestifs. Et donc déjà, ce livre-là, en tant que psychologue, je suis en mode, oh. Surtout, je ne m'y attendais pas, j'avais 19 ans, j'étais au début de mon parcours, mais j'avais trouvé ça vraiment déjà, parce que j'ai toujours eu ce côté où, initialement, je n'étais même pas sûre de vouloir être psychologue clinicienne, donc de faire de l'accompagnement et de la thérapie, parce que j'étais beaucoup plus dans le côté médical. J'avais même hésité à faire médecine. Et alors, en psycho, j'étais beaucoup plus, du coup, dans le côté neurosciences, neuropsychologie. Mais donc, ce livre, qui était très médical, parce que c'était vraiment des concepts médicaux sur le système digestif, sur la flore intestinale, ça venait éveiller ce côté un peu plus médecine en moi.
Ouais.
Et donc, oui, il y a eu ce livre-là. Et puis, quelques temps après, en librairie, donc voilà, un peu les... On va dire les hasards de la vie. Après, on peut croire que c'est des hasards ou non, mais j'ai trouvé de seconde main le livre de Natasha Campbell-McBride. Et ça, c'était un an après, je pense. Mm-hmm. Et j'étais vraiment en mode, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je trouvais ça vraiment passionnant. Et puis, quand j'ai fait mon master, donc mon premier master en psychologie du développement, effectivement, l'un des plus grands chapitres pendant toute l'année, c'était l'autisme. Les autres troubles du développement aussi, bien sûr, TDAH, dyslexie, mais l'autisme prenait beaucoup, beaucoup de place. Et alors moi, je voulais qu'on parle de ce côté de la flore intestinale puisque je m'étais déjà fort informée là-dessus. Et c'était mentionné, mais un peu comme ça. Et voilà, il y avait tendance à dire que c'était flou, qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches. Alors moi, je trouvais quand même des articles scientifiques assez prometteurs. Bien évidemment, dans la recherche scientifique, il y a toujours... la science, il n'y a jamais de vraies réponses. C'est un peu le concept de la science, c'est que c'est un débat constant et éternel. Mais en tout cas, je trouvais des articles très bien structurés, très, très valides, qui encourageaient l'utilisation de ces méthodes-là. Et donc, au final, j'ai fait un travail de recherche là-dessus donc, à l'université. Et puis, donc, quand j'ai fini, j'ai voulu continuer. Et voilà, et c'est...
Et maintenant,
c'est toujours resté, c'est toujours resté. Et puis, j'ai commencé à travailler avec la formation. Et...
Mais c'est assez surprenant qu'à l'université, puis c'est ça, parce que les parents se font souvent dire, justement, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a toutes sortes de pratiques, de techniques qu'on peut utiliser pour aider un enfant, justement, si on parle, par exemple, de l'autisme. Puis... Mm-hmm. La diète, parce que j'ai fait une autre entrevue, justement, qui est passée avant, et la maman, ça a pris énormément de temps avant qu'elle, finalement, rencontre un Dan Doctors aux États-Unis. Il y a quelques années, ils appelaient ça le Defeat Autism Now Doctors, puis qui travaillent, justement.
Okay,
donc,
okay.
Eux, puis elle est rentrée dans le cabinet après avoir rencontré, justement, plein de médecin, puis finalement, c'est le premier médecin qui lui a dit, avant de faire quoi que ce soit avec votre enfant, qui est clairement, qui va pas bien, évidemment, qui a l'autisme, qu'on a diagnostiqué avec ça, ben, que le médecin lui a finalement dit, ben, on va commencer par travailler sur qu'est-ce qu'il mange. Parce qu'elle, elle était là, mais pourquoi personne ne m'a dit ça depuis ce temps que je tu sais, on fait plein de choses, mais personne nous a dit que ça pouvait avoir un lien.
Super, super. Ouais. Oui. Et les témoignages de mères comme ça, c'est primordial parce que c'est bien plus important que la science, même si la science, voilà, en tant que chercheuse scientifique, j'aime ça. Mais les témoignages des parents qui tout simplement ont vu des progrès chez leurs enfants, c'est golden, comme on dit en anglais. Ça vaut de l'or. Et il faut donner la parole à ses parents, donc c'est très chouette pour cette maman. Et heureusement qu'elle a rencontré un médecin qui lui a parlé de ça.
Il faut que ça soit le plus tôt possible, si possible.
Et ici en Europe, malheureusement, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement... alors moi, en allant au Royaume-Uni, déjà en allant en Angleterre, je pensais que ça allait être un peu différent parce que voilà, en Europe, il y a un peu cette vision que le système anglais est, et effectivement, c'était un système super. C'est un système où on entraîne vraiment très fort notre sens critique. On doit beaucoup lire d'articles, on doit beaucoup écrire. Donc, j'ai adoré le système universitaire anglais. Mais oui, j'espérais que ça soit un peu plus... c'est pas que c'était pas mentionné, mais c'était vraiment mentionné brièvement et pas comme une vraie piste de travail. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'en Europe, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Parce qu'en fait, on ne creuse pas. Donc, on va mentionner que les enfants qui souffrent de troubles du développement ont tous souvent des problèmes digestifs. Mm-hmm. Ça va être mentionné, voilà, dans les fameuses listes de comorbidité, donc de maladies qui souvent sont corrélées. Mais on ne va pas réellement travailler là-dessus, ce qui est vraiment dommage. Alors qu'aux États-Unis, moi, ce que je constate, que ce soit la recherche, il y a beaucoup de recherches dans les universités américaines par rapport au traitement alimentaire, donc au fait de guérir à travers l'alimentation. Et surtout, je vois même des masters qui commencent à exister, par exemple, de psychiatrie nutritionnelle.
Waouh,
super. ici en Europe... pour l'instant, c'est beaucoup plus, on va dire, underground. C'est un peu niche. Et donc, quand je vois ces initiatives-là aux États-Unis, quand je vois des masters qui naissent où il y a à la fois le mot nutrition, à la fois le mot psychologie, psychiatrie, voilà, je trouve ça super prometteur. Et là, ben, comme par hasard, ce médecin dont tu me parles, c'était un médecin américain, si j'ai bien compris.
Oui, oui. Donc, ça fait... ça fait quelques années, ça fait au moins... on se parlait, je pense, 12 ans, 10 ou 12 ans qu'elle a rencontré ce médecin-là. Mais oui, puis moi, je veux dire, avec Epidemic Answers, on a des appels de coaching à tous les mois avec plusieurs thérapeutes. Et on parle de certains cas, justement, puis certaines choses qu'on fait, pas nécessairement avec la diète. Oui, la diète, tu sais, on le sait que ça aide, c'est toujours le premier pas à faire parce que c'est la base. Mais ensuite, il y a tous les autres facteurs environnementaux, il y a même aussi les traumas familiaux, il y a bien tout sûr. Ça qui s'emboîte ensemble. Donc, comme je dis toujours, il y a autant de cas qu'il y a d'enfants, finalement.
Exactement. Et donc, il y a aussi autant de solutions. Ça, c'est quelque chose, en tant que psychologue, je trouve ça très, très, très important, c'est d'écouter la demande du patient et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire. Et vraiment d'être à l'écoute des gens et de ne pas donner une recette, c'est le cas de dire, parce qu'on parle d'alimentation. Ouais. Mais que voilà, il n'y a pas de solution parfaite pour tout le monde. Par contre, il peut y avoir une solution pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est important à mettre en avant. Ouais.
Ouais, c'est très bio-individuel, effectivement.
Voilà, exactement.
Donc, que penses-tu, toi? Parce que là, en fait, on parle bon, de diète et tout, puis de solutions, mais... de ces conditions-là, parce que toi, tu travailles du point de vue psychologie, donc tu vas travailler vraiment en thérapie psychologique et aussi tu vas utiliser la diète GAPS, parfois seulement la diète GAPS, des fois tu vas combiner les deux, donc évidemment, on ne connaît pas les causes profondes de chaque cas, mais qu'est-ce que tu vois du point de vue psychologique de ces conditions-là? Ici, il y a un mouvement en ce moment avec des neuropsychologues qui écrivent des livres et qui font beaucoup de bruit en ce moment au Québec par rapport au fait que, par exemple, au niveau des troubles du développement et tout, qu'on est assez rapide à diagnostiquer.
Ouais.
Ici, au Québec, on est les plus grands prescriveurs de médication pour les troubles du développement.
Ouais. Ouais.
Donc, évidemment, bon, là, il y a eu des liens qui ont été faits avec, souvent dans l'année scolaire, ce sont les plus jeunes, donc ceux qui sont les plus jeunes toute l'année, qui sont diagnostiqués plus rapidement parce qu'ils ont de la misère à suivre le... Tu sais, ils n'ont pas la même énergie que les autres enfants, donc... Puis aussi, il y a tout l'aspect humain, la connexion avec son donneur de soins, la connexion avec son parent, la connexion avec son professeur qui joue, je crois, un très grand rôle dans tout ça. J'aimerais avoir ton opinion comme clinicienne.
Oui, oui, oui. Donc, un grand rôle, tu veux dire, dans le diagnostic peut-être
précoce? Oui, dans le diagnostic précoce.
Oui.
Et oui, dans le diagnostic précoce. Puis, c'est ça parce que, tu sais, pour moi, tous les symptômes, ce sont des signes, des finalement des petits drapeaux qui se lèvent, qui disent qu'il y a quelque chose de plus profond
qui se passe. Ouais. Donc, ouais. Il faut aller creuser à la source.
Bien sûr, ouais. Mais ça dépend du trouble aussi. Donc, pour ce qui est de l'hyperactivité, je pense aussi, comme tu dis, au niveau du lien avec les professeurs et du système scolaire, disons qu'un enfant hyperactif va parfois être si créatif et si... il y a des traits vraiment tellement positifs. Et malheureusement, dans le type de système scolaire que l'on a, c'est les systèmes, c'est les symptômes et les caractéristiques plus négatives qui vont être mises en avant. Et donc, par rapport au TDAH, je pense que si c'est le seul souci de l'enfant et qu'il n'y a pas d'autres comorbidités, donc si ce n'est pas un enfant qui a du mal socialement, par exemple, si tout se passe bien socialement, que tout se passe bien au niveau santé physique, donc qu'il n'a pas de troubles digestifs, qu'il n'a pas d'eczéma, qu'il n'a pas d'asthme, parce que ça, c'est toutes des comorbidités également de troubles de développement. Mais si un enfant sur lequel on a envie, on va dire, de poser un diagnostic de TDAH ne présente que l'impulsivité et la difficulté à se concentrer à l'école, je suis de l'avis que ça vaut la peine... de réfléchir plusieurs fois avant de poser le diagnostic. Pourquoi ? Parce que je pense que le diagnostic, dans beaucoup de cas, aide. Il peut aider les parents à obtenir de l'aide. Il peut aider les parents aussi à... Chaque personne a une relation différente au diagnostic. Par exemple, dans la dépression, il y a des personnes chez qui ça va aider, se dire, OK, en fait, j'ai ça, j'ai un problème et je vais... Ça leur donne un moteur. Alors que pour d'autres personnes, ça peut avoir un côté humiliant, ça peut avoir un côté... Ah d'accord, je suis faible. Donc c'est tellement compliqué aussi cette thématique du diagnostic et de est-ce qu'il faut diagnostiquer, est-ce qu'il ne faut pas diagnostiquer. C'est quelque chose de très complexe. Mais ce que je donnerais moi aussi en fonction de ce que je vois dans ma pratique comme conseil, c'est que si l'enfant présente vraiment principalement ce côté hyperactif et trouble de la concentration, mais sans rien d'autre à côté... Moi, j'essaierais plutôt d'éviter, de façon à ce que justement, qu'il n'ait pas cette étiquette, qui, malheureusement, l'étiquette du TDAH, ça a un grand impact sur les enfants, sur leur estime. Surtout quand ils sont jeunes, ils se disent « Ah, ben, je suis moins fort à l'école, mon cerveau, il fonctionne moins bien », alors qu'en fait, non. Mais voilà, ça, c'est un discours que je fais dans ce cas-là de l'hyperactivité et du trouble de la concentration. Si ça n'a pas un impact vraiment fonctionnel. Donc, comme je disais, si tout le reste fonctionne. Va bien. Oui. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'autisme, je pense, c'est encore différent. Mais donc, comme là, tu me parlais aussi beaucoup de médicaments et de diagnostics précoces, j'imagine que c'était surtout, les médicaments pour le TDAH. Je pense qu'il faut faire attention. Et je pense que si la seule problématique est que l'enfant... ne se concentre pas, mais que tout le reste va bien, qu'il va bien socialement, qu'il est en bonne santé, que je réfléchirai, avant de vouloir vraiment poser coûte que coûte un diagnostic.
Puis pour l'autisme, c'est tellement vaste comme symptôme. Puis ça peut être, comme on disait tantôt, c'est tellement bio-individuel. Donc pour ça, c'est... Au point de vue psychologique, comment tu travailles avec ces enfants-là, justement, ou je sais pas si tu travailles avec des adultes qui ont l'autisme, plus c'est plus familial, plus les enfants, parce que tu travailles avec les enfants, donc... Quelle est la partie comme plus psychologique à cette approche-là, là, tu sais? Je sais pas avec si tu comprends l'autisme. Ma question.
Oui. Mais donc, il y a plusieurs choses. Quand c'est les enfants, on travaille... plus souvent avec les parents, après en fonction aussi, comme je disais, de la demande. Donc, si les parents sont là parce qu'ils ont envie de creuser cette piste alimentation, alors effectivement, je travaille principalement avec les parents pour les soutenir dans ce changement. Et alors là, c'est presque un peu plus du coaching, puisqu'on parle de quoi manger, comment le préparer, comment... Mais ensuite, si c'est plus avec la personne concernée... À l'adolescence, il y a tout le côté inclusion, le côté identitaire, la place que ce diagnostic peut prendre ou non. Comme je disais, le rapport au diagnostic est différent pour toute personne. Il y a des personnes qui ont besoin de l'étiquette et ça les conforte et ça, voilà, ça participe à leur identité, mais d'une façon positive. Tout comme il y en a d'autres où ça n'est pas le cas. Et donc là, il y a beaucoup de travail, un peu de déconstruction à faire avec eux et d'essayer de travailler sur pourquoi donner tant de place au diagnostic, pourquoi ça éveille quelque chose en eux de négatif. Et de manière générale, je dirais avec l'autisme, l'estime de soi, c'est quelque chose qui souvent doit vraiment, vraiment être travaillé parce que c'est des personnes qui, depuis le plus jeune âge, se sont senties différentes et incomprises, jugées. Malheureusement, chez les adolescents, les adolescents qui sont sur le spectre ont plus souvent des problèmes d'harcèlement. Ça, c'est toutes des réalités. C'est toutes des réalités. Donc, si on va vraiment sur le côté purement psychologique et moins diète, donc médical, traitement, si on va dans le soutien, on va dans le soutien de l'estime de soi, l'affirmation de soi aussi. C'est tous des concepts qui reviennent vraiment. Le regard des autres, voilà.
Puis, je voulais savoir, en fait, la diète GAPS. En fait, la diète GAPS, c'est parce que je veux expliquer c'est quoi. Donc, c'est Gut and Psychology Syndrome, GAPS. Puis, comme tu disais, c'est la docteure Natasha Campbell-McBride qui l'a développée, qui l'a... en quoi consiste cette diète? Parce que en fait, nous on en parle beaucoup, mais j'ai jamais entendu dans les détails. Puis je sais, il y a certaines actions qu'on va poser au niveau alimentaire qu'on devrait faire avec tous les enfants qui ont ces diagnostics-là au départ pour tester. Comme par exemple, je sais pas si d'après moi ça fait partie de la diète GAPS, mais vraiment enlever les produits laitiers, enlever le gluten et tout. Donc ça c'est fait. Parce qu'on voit juste avec cette première action-là, souvent on voit déjà des beaux résultats.
Surtout dans l'hyperactivité, le sucre, ça change vraiment tout.
Exact. Donc, en quoi consiste la diète GAPS? C'est pas une diète simple.
Non, c'est pas la plus simple. Disons que comparé au, par exemple, sans lactose, sans caséine, c'est un peu plus complexe parce que c'est plus complet. Ça ne fait pas que enlever certains aliments, ce qui est déjà top. Enlever la source d'inflammation, enlever la source de toxicité, enlever la source de ce qui permet aux mauvaises bactéries de prendre le dessus. Bien évidemment, c'est déjà très positif. Et comme tu dis, dans certains cas, ça a déjà un impact. Donc moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'y aller un peu par baby steps. Et si ces changements-là fonctionnent déjà, tant mieux. Et puis d'ailleurs, s'il fonctionne, ça donnera envie aux parents d'aller plus loin ou aux personnes concernées et de faire GAPS. Mais effectivement, GAPS en un coup, moi, je le recommande. Ça a vraiment des résultats incroyables. Mais tu as raison de mettre en avant que ce n'est pas facile. Il faut être soutenu, parce que c'est beaucoup de choses. Donc, c'est tout ce qu'on enlève. Alors, ce qu'on enlève, effectivement, c'est tous les produits transformés. Tout ce qui est toxicité dans l'alimentation, donc on fait attention aux pesticides, aux glyphosates, à toutes ces choses-là.
Aux additifs.
C'est un régime hypotoxique, ça c'est sûr. Et puis on enlève tout le gluten, on enlève tout le sucre, que ce soit donc le sucre transformé, mais aussi on enlève les féculents et l'amidon, donc les sucres complexes. Et alors, on enlève aussi toutes les céréales, pas seulement celles sans gluten. Le gluten, effectivement, comme tu dis, c'est aussi un peu une base, donc on l'enlève. Mais on enlève aussi les autres formes de céréales parce que malheureusement, elles peuvent aller nourrir cette flore pathogène, donc ces mauvaises bactéries, comme on les appelle de façon simple. Et donc on enlève toutes les céréales également. Et donc ça, c'est ce qu'on enlève. Dans certains cas... On enlève même les légumes trop fibreux s'il y a des gros troubles digestifs. Mais vraiment, dans le cas de, par exemple, maladie de Crohn, quand il y a vraiment une diarrhée chronique qui est installée depuis des années, alors parfois, on enlève aussi les légumes très fibreux. Et donc ça, c'est ce qu'on enlève. Et entre guillemets, rien de nouveau là-dedans, dans le sens où, c'est des choses qui sont discutées par de nombreux médecins, dans de nombreux régimes. Mais alors, ce qui est un peu différent... Dans GAPS, je trouve personnellement, c'est ce qu'on ajoute. Donc, c'est l'accent qu'on met sur certains aliments qui doivent vraiment, vraiment, vraiment faire partie du quotidien. Et ces aliments-là, c'est le bouillon de viande.
Oui, le bouillon d'os.
Le bouillon d'os, oui.
Ouais,
pourquoi? Parce que le bouillon d'os ou le bouillon de viande, en fait, c'est deux choses différentes. Alors, en fonction de la sensibilité, parfois, on commence par le bouillon de viande parce que le bouillon d'os peut être riche en glutamate et peut être inflammatoire. Mais ça, c'est des détails. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est des casseroles où on met des morceaux de viande avec des os. Enfin, c'est plus ou moins la même chose, on va dire, mais il y a une toute petite distinction. Mais alors, pourquoi les bouillons, on va juste les appeler les bouillons, sont très importants? Parce qu'ils vont vraiment aller réparer cette paroi intestinale endommagée. Parce que ce qui se passe avec cette dysbiose intestinale, donc avec cette flore pathogène qui prend le dessus, c'est que des petits trous vont se créer dans la paroi intestinale. Ouais. C'est ce qu'on appelle souvent leaky gut en anglais. Ou
une paroi poreuse.
Voilà, paroi poreuse. Ouais, ouais, ouais. Et cette paroi poreuse, elle a un rôle tout aussi important dans la problématique que le déséquilibre de la flore. Parce que c'est à cause de ces trous que des molécules vont aller dans le sang dans une forme qui n'est pas celle que le corps reconnaît. Et alors, c'est là que peuvent naître aussi les allergies, les intolérances, les réactions immunitaires. Tout vient du fait que ce mur qui devrait réellement protéger ne protège plus. Mmh. Et alors, du fait que tout le système digestif est endommagé, y compris les enzymes, c'est un court-circuit. Et donc, les molécules, les aliments, quand ils arrivent dans notre système digestif, sont travaillés. Il y a des centaines de mécanismes incroyables qui se passent. Et quand ces mécanismes commencent à bugger, on va dire, pour dire simple, donc les molécules quittent et vont dans le flux sanguin dans une forme qui est non reconnaissable. Le corps ne comprend pas ce qui se passe. Et beaucoup d'intolérances viennent de là. Ça, c'est vraiment... Et l'accumulation de la toxicité vient de là, parce que donc les toxines, hop, elles arrivent soudainement dans le flux sanguin et il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de protection. Et donc le bouillon répare cette paroi intestinale. Et donc c'est pour ça qu'il est très très important, parce qu'il est riche en gélatine principalement et en collagène aussi, enfin ces deux choses-là. Mm-hmm. Et donc ça, c'est un élément, je dirais, qui est différent dans le GAPS, c'est le bouillon. C'est un concept qui est moins présent dans d'autres régimes. Un autre, c'est la fermentation.
Oui.
Donc, de beaucoup, 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 beaucoup fermenter pour inclure beaucoup de probiotiques. On fermente à la fois les légumes, ce qui est super aussi pour pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. Les légumes fermentés sont beaucoup plus faciles à digérer. Parce que toute personne qui a des gros problèmes intestinaux sait que les légumes... Effectivement, c'est important pour la santé, on en mange. Par contre, ça peut être très dur à digérer.
Ouais.
Les personnes qui souffrent de diarrhée et de crampes et de ballonnements, très certainement, comme les légumineuses d'ailleurs ne sont simplement pas intégrées dans GAPS, du moins pas au début. Mais les légumineuses sont un très bon exemple. Toute personne qui souffre de ballonnements ne mange certainement pas souvent de légumineuses. Et donc, ce qui se passe avec la fermentation, c'est que l'aliment est vraiment prédigéré par toutes ces magnifiques bactéries qui sont dans le processus de lactofermentation. Et donc, on fermente à la fois les légumes, on fermente aussi les produits laitiers. C'est une autre chose qui est différente dans le GAPS, c'est que le lactose est effectivement retiré, parce que c'est du sucre, c'est aussi simple que ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits laitiers. Et ça, c'est top, parce que la plupart des gens, quand même, apprécient les produits laitiers. C'est simplement... qu'ils n'arrivent pas à les tolérer. Alors, qu'est-ce que GAPS explique pour qu'ils soient tolérés? C'est que la fermentation doit être faite à la maison. Et donc, ça participe un peu à ce que tu disais, que ce n'est pas facile à mettre en place, GAPS, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on recommande de faire chez soi et de vraiment apprendre ou réapprendre à cuisiner et à passer du temps au fourneau. Mais ce qui est différent, donc, quand on fermente un yaourt chez soi plutôt qu'acheter un yaourt fermenté en magasin, c'est qu'on peut le fermenter bien plus longtemps. Parce qu'en magasin, si on a de la chance et que c'est un vrai yaourt bio, il a peut-être été fermenté entre 4 et 8 heures. Si on va en supermarché, il n'a pas été fermenté du tout. On a juste mis énormément d'épaississants dedans pour que ça ait l'air fermenté. Et c'est pratiquement du lait pasteurisé. Et donc là, on fait à la maison pendant 24 heures. Pourquoi 24 heures ? Parce que ça laisse le temps à toutes ces bactéries, donc qu'on a soit acheté en pharmacie des petits ferments lactiques ou alors qu'on a pris un pot de yaourt. Et, enfin, voilà. Mais donc, les bactéries qu'on a mises dans le lait pour fermenter, elles auront vraiment le temps de consommer tout le lactose qui est dans le lait. Et donc, en fait, un yaourt fait maison qui a fermenté pendant 24 heures, donc qui pendant 24 heures restait à 40 degrés, dans cette 40 degrés Celsius, dans cette température idéale pour la fermentation, il n'y aura plus de lactose et la caséine aura été partiellement prédigérée aussi. Donc, ce sera bien plus simple à tolérer.
Donc j'ai une question à propos de ça.
Oui, oui, oui.
Parce qu'en fait, ça, c'est un kéfir.
En fait. Alors, le kéfir, c'est avec les grains de kéfir. Le yaourt, c'est avec des ferments lactiques. Et le kéfir est très, très présent dans GAPS.
Oui.
Simplement, la recommandation, c'est de commencer par le yaourt si on n'a jamais, en tout cas, consommé beaucoup de produits fermentés. Pourquoi ? Parce que le kéfir est plus puissant. Concrètement, le kéfir, j'ai pas envie de dire qu'il est mieux que le yaourt, mais il est plus riche, il est plus puissant d'un point de vue probiotique. Pourquoi ? Parce que le yaourt, c'est simplement des bactéries, des bonnes bactéries.
Ouais.
Tandis que le kéfir, c'est des bonnes bactéries et des bonnes levures. Parce que les grains, donc les grains qui sont le starter, les grains de kéfir, c'est un mélange incroyable de bactéries, de levures, de champignons. Tandis que le yaourt, les ferments qu'on achète pour faire du yaourt, c'est des lactobacilles et d'autres formes de bactéries. Mais c'est principalement des bactéries. Donc le kéfir est aussi intégré.
Question parce que maintenant, nous, on achète... On pourrait faire notre kéfir à la maison, mais on achète des pots de kéfir, mettons, vaches nourries à l'herbe, bio et tout.
Ouais.
Donc ça, c'est intégré. Mais par rapport au yaourt, parce que c'est la première fois que je le réfléchis comme ça. Donc, dans le fond, c'est on fait notre yogourt nous-mêmes, finalement. Notre yaourt,
oui, c'est ça.
On appelle ça du yogourt ici.
Oui, yogourt, pardon.
c'est correct. J'adore l'accent.
Yogourt.
Oui, oui. Yogourt. Ils disent yogourt, mais yaourt, j'aime bien.
Ah oui, yogourt.
Donc, on achète des grains pour faire notre yaourt avec du lait.
Oui.
Un lait de bonne qualité, là.
Oui, un lait de très bonne qualité. Dans l'idéal...
Cru,
exactement.
Est-ce que c'est légal, vous, en France, le lait cru?
Oui,
en France. Pas en France, en Belgique?
Oui, les deux, France, Belgique. Ah. Oui, dans la plupart des pays d'Europe, ça se trouve assez facilement.
Donc nous, ici, c'est pas légal.
On a de la chance. Mmh. Mais oui, je sais. Mmh. Non, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. On trouve du lait cru, bien évidemment pas en supermarché, mais en magasin bio ou dans des fermes, on peut passer commande. Et donc, après, nous, on a aussi beaucoup de fromage au lait cru.
Oui, c'est une tradition, c'est ça. Voilà. Ouais.
Mais non, on a beaucoup moins peur du cru qu'au Canada et aux États-Unis.
Oui.
Même au Royaume-Uni, quand je vivais là-bas, ils ont très peur du cru. C'est-à-dire que même un bon tartare, donc le tartare, c'est de la viande crue, du haché de bœuf cru. Nous, en France, on mange ça, voilà.
Ouais, ouais.
Avec un petit jaune d'œuf cru dessus.
Ouais.
Et en Angleterre, quand j'expliquais le concept, on me regardait avec des gros yeux. Ou pareil, de mon côté italien, la carbonara, c'est des œufs crus.
Enfin, oui.
Vraiment très légèrement cuit. Et quand j'expliquais aux Anglais que la carbonara, déjà que ce n'était pas de la crème, ils étaient choqués.
Mais qu'en plus,
c'était des œufs crus, ils étaient encore plus choqués. Non, mais petite parenthèse, pardon. Mais donc, pour dire que oui, ici, le cru se trouve plus facilement. Et donc, le cru est vraiment, vraiment, vraiment privilégié. Pourquoi ? Parce que le lait pasteurisé, c'est du lait mort.
Ouais.
C'est du lait mort et il n'y a plus rien de bénéfique dedans. Et tous les articles qui nous disent pratiquement d'arrêter de consommer du lait sont faits, c'est des études
sur les
qui
laits
sont réalisées sur le lait pasteurisé. Et c'est vrai, le lait pasteurisé est un inflammatoire ahurissant. Il ne faut pas consommer de lait pasteurisé. Par contre, si c'est la seule chose qu'on trouve et qu'on prend le lait pasteurisé et qu'on l'utilise pour fermenter, c'est déjà
mieux.
Ah oui, c'est beaucoup mieux dans le sens où le côté inflammatoire disparaît et ça devient une source de probiotiques. Donc, les produits laitiers existent dans le protocole GAPS, mais tous fermentés. On fermente. On apprend à fermenter de tout. Et pareil pour les boissons, donc le kombucha, le kéfir, on fermente.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment principal. Donc ça, c'est le deuxième, je dirais.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Gros éléments, le bouillon, ouais. La fermentation. Et comme troisième, ceci, je pourrais en parler trop longtemps, mais comme troisième élément qui vraiment différencie le protocole, c'est le gras. L'importance du gras pour remplacer justement tout ce sucre et tous ces glucides qu'on enlève.
Ouais.
Alors, ça ne veut pas dire que c'est un régime cétogène, même si on peut faire GAPS en faisant un régime cétogène si on veut.
Ouais.
Après, le régime cétogène, c'est encore bien plus compliqué que le régime GAPS parce qu'il faut vraiment vérifier qu'on soit
en cétose.
Et c'est pas simple. Et qui dit régime cétogène dit aussi plein de légumes qui sont enlevés de l'alimentation parce qu'il y a plein de légumes riches en féculents et en glucides. Et donc, tandis que dans GAPS, tous les légumes sont autorisés. Vraiment, pour les gens qui adorent les légumes, c'est super parce que carottes, il n'y a pas d'interdiction au niveau de quels légumes consommer, à part parfois les légumes trop fibreux. Et donc, oui, le gras, l'importance du gras sans pour autant entrer en cétose. Pourquoi l'importance du gras ? Parce que nos cellules sont principalement faites de gras, pour ne pas parler de notre cerveau, qui vraiment est principalement constitué de lipides, mais toutes les autres cellules aussi de notre corps, surtout les membranes, en fait, les membranes cellulaires ont besoin de gras pour rester étanches et réellement protéger, l'intérieur de la cellule de l'extérieur, et aussi pour tout ce qui est régénération cellulaire. On a besoin de gras. On a vraiment besoin de gras. Et on a besoin de glucides, oui et non. C'est tout un débat. Mais le fait que nous avons besoin de glucides pour l'énergie, oui, à part si on est en cétose. Mais c'est très rare d'être en cétose.
Ouais.
Et donc oui, effectivement, le commun des mortels prend son... Il y a un peu cette conception que le sucre est le moteur de notre cerveau. Et d'un certain côté, c'est ce que nous transformons en énergie. Oui.
Oui.
Mais ça n'est pas tout. Le corps fonctionne aussi avec le gras, aussi avec les protéines. Donc, tout doit être présent. Et il y a malheureusement, dans notre société de nos jours, vraiment un focus sur les pâtes, le riz, les légumes, oui, d'accord. Mais et donc, tout ce qui est plus protéines animales et bon gras, voilà, c'est vrai, oui.
C'est démonisé.
Oui, c'est démonisé. Ah oui, c'est effectivement, oui. C'est démonisé, donc ça c'est encore une autre histoire, mais donc oui, la viande est démonisée, le gras saturé est démonisé, alors qu'ils ne devraient pas l'être, ils sont très importants pour la santé, tout comme le reste. Et donc oui, le bon gras, que ce soit les gras végétaux, donc l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de tournesol, tant que c'est des huiles de bonne qualité qui n'ont pas été chauffées à des températures ahurissantes, toutes les huiles végétales sont bonnes pour la santé. Tout comme les huiles végétales saturées, donc l'huile de coco, c'est une graisse saturée, par exemple.
Ouais.
Même si c'est une graisse végétale, c'est une graisse saturée. Et pourtant, elle ne reçoit pas du tout la même démonisation que le beurre ou le ghee.
Oui, en fait, c'est partagé, ça, dernièrement. On en voit de plus en plus de gens qui disent que l'huile de coco, là, non, il ne faudrait pas y toucher. Ouais. C'est dangereux, c'est trop saturé justement, mais ce qu'on comprend mal, c'est que c'est pas parce que le gras est saturé que là, ça va c'est un gras saturé après dans ton corps puis que ça va bloquer tes artères. Là. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne finalement.
Exactement, et oui, sans rentrer non plus dans trop de détails, mais même les légumes dans notre corps sont transformés en gras saturé par notre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui... On a tendance à penser que toutes les valeurs de notre cœur proviennent exactement de ce qu'on mange et de ce qui est dans l'aliment. Mais en fait, l'aliment, il est transformé de plein de manières. Et puis, c'est notre corps qui en fait un cocktail différent. Et c'est pas du tout... C'est pas une relation linéaire de ce qui est dans l'aliment, je vais retrouver dans mon corps. Par exemple, pour le cholestérol, on oublie souvent que ce n'est que 20%, il me semble, ou 30% de notre cholestérol qui vient de notre alimentation. Tout le reste est simplement produit par notre foie. Et notre foie produit plus de cholestérol quand l'inflammation est plus élevée, parce que pour cicatriser les tissus, justement, comme je parlais du gras et de la régénération cellulaire et de ces processus-là qui sont très importants, le cholestérol intervient dans les processus de cicatrisation. Et donc, quand il y a une grande inflammation dans le corps et un tissu qui est lésé, le foie va produire plus de cholestérol. Et c'est cette source-là qui est plus déterminante que l'alimentation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent mis de côté. Mais donc l'importance du gras, tous les gras, que ce soit les gras végétaux, que ce soit les gras d'origine animale, donc le beurre, le ghee, la graisse de canard, la graisse d'oie, ouais. si on peut trouver ces choses-là, c'est très important. Et d'utiliser les deux, de n'exclure ni le monde animal, ni le monde végétal. Par contre, exclure les huiles végétales transformées et chauffées à des températures. Donc, les fameuses graisses trans dont on parle, ces graisses-là, bien évidemment.
Oui. Comme par exemple l'huile de canola, là, qui est vraiment ultra chauffée et transformée, qui peut devenir très inflammatoire.
Exactement.
Puis il faut mentionner, je crois, que ces gras-là, par contre, le gras d'un bœuf qui est nourri à l'herbe est très différent du gras d'un bœuf élevé dans un feedlot. Puis c'est pour ça que en coaching, j'en parle aussi, t'sais, la qualité des produits que tu vas utiliser, la qualité de ton œuf. On voit vraiment beaucoup la différence d'un œuf qui vient d'une poule en liberté qui a vraiment... Là, on ne parle pas poule en liberté sur la boîte, là, mais poule en liberté.
Non, vraie poule en liberté.
La vraie poule qui est sur le gazon toute la journée, que tu vas chercher chez ton fermier. La couleur du jaune est différente. La consistance du jaune est différente. La coquille est plus dure. C'est des aliments beaucoup plus sains. Puis ce qui se passe aussi, c'est qu'ils démonisent, comme on disait tantôt, les gras, les viandes, beaucoup. Mais ils font leurs études, d'après moi, sur des viandes industrielles. Donc, et sont où les études qui vont aller parler en contrepartie de ces bons gras-là? Puis c'est important, justement, parce que on parle de la cellule, mais comme tu dis, on parlera pas du cerveau, mais le gras, c'est tellement bon pour le cerveau.
Oui.
Mes enfants, dès tout petit, ça a été l'avocat, ça a été une des premières choses que j'ai intégrées. Si je me faisais des œufs, je les faisais cuire dans un bon ghee de qualité. Les huiles aussi. L'huile de poisson de bonne qualité aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment bon pour...
Bien sûr.
La santé cognitive.
Ah oui, il y a des études, par rapport... Il y a des études, mais juste de compléments d'huile de foie de morue et de choses comme ça, et des résultats incroyables dans les troubles du développement, dans la dépression, dans l'anxiété, le folate, donc tous ces gras d'origine animale et de poisson aussi, donc comme tu dis.
Ouais. Ça a été tellement, tellement. Moi, en tout cas, moi, mes parents, tu sais, la famille, la génération en haut, avant nous, là, ils ont peur du gras. C'est, c'est phénoménal.
Ah oui, mais parce qu'il y a eu vraiment... Heureusement, c'est quand même en train de changer. Parce qu'il y a 30 ans, on avait peur même du gras végétal. On avait peur de tous les gras. Donc, heureusement, maintenant, on a... Voilà, il y a encore cette peur du gras saturé. Mais l'autre gras, donc l'huile d'olive, l'avocat, toutes les différentes huiles de lin, de tournesol, de chanvre, enfin il y a plein d'huiles qui ont du succès et heureusement parce qu'au moins on donne quand même de la place à ces graisses et à ces oméga.
Donc là on a dit les bouillons. Donc ça c'est une des premières choses en coaching que je parle à mes clients, le bouillon, il est très important aussi pour le système immunitaire justement.
Ouais.
Donc le bouillon, la fermentation, le gras, donc ça c'est comme la grosse base là, de GAPS.
Oui, si je devais me limiter. Après je pense aussi l'importance des abats, donc de consommer pas seulement les parties musculaires des viandes, mais aussi les parties, les parties plus gélatineuses, plus proches des os, les articulations, le cartilage, la peau, enfin, de vraiment consommer l'animal entier. Et surtout, de aussi consommer des abats, donc du foie, ça c'est vraiment la base. Puis pour les courageux, cervelle, poumon, c'est une étape en plus. Mais ce qui est vraiment indispensable, c'est le foie. Mais bon, on revient bien évidemment à la qualité. Où est-ce qu'on trouve l'aliment? Il faut réfléchir à tout ça. Et c'est pour ça que bien suivre le protocole GAPS peut sembler compliqué à premier abord. Et c'est pour ça que je trouve ça très important d'y aller étape par étape.
Un petit pas à la fois. Comme je dis
un
toujours.
Un petit pas à la fois.
Chaque petit pas compte et un petit pas à la fois.
C'est le cas de dire, on parle de foi.
Ouais. Ouais. Et
ben
je vais
oui.
te dire, moi, j'ai eu, les auditeurs qui me connaissent déjà, j'ai eu une maladie auto-immune. J'avais
Oui.
énormément d'inflammation. Puis le naturopathe avec qui je travaillais, c'est tout ça qu'elle m'a montré.
Ouais.
J'ai pas nécessairement fait la diète GAPS,
C'est
mais
ça.
c'est comme ça qu'on a commencé. Là. OK, tu vas introduire le
Oui.
bouillon d'os, on va enlever toutes les choses qui sont inflammatoires. J'étais rendue intolérante à tout ce que je mangeais. Et donc,
Ouais.
j'avais vraiment un gros leaky gut. Donc,
C'est
bouillon,
ça.
fermentation, je fermentais mes légumes aussi par la suite.
Chouette.
Donc ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Puis oui, ça demande d'être accompagné à un certain
Exactement,
niveau.
oui,
Je l'ai
d'être
fait,
soutenue.
ouais, c'est ça. Je l'ai fait avec elle, mais elle ne m'accompagnait pas. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui était avec moi. Mais bon. Donc,
Ouais.
oui, donc c'est pas toujours simple à intégrer, c'est sûr. Mais chaque petite étape, même si tu peux le faire une partie, puis on voit
Oui.
l'amélioration, comme on disait tantôt, seulement enlever les produits laitiers puis le gluten. Donc,
Exactement. On peut prendre
ouais.
ces concepts-là, justement. Donc là, on s'est limité à
Ouais,
quatre
c'est ça.
concepts.
Ouais.
Et déjà réfléchir à ça et intégrer ces choses-là sans pour autant être parfait dans le reste. Par exemple, en consommant encore quelques céréales sans gluten, par exemple, si on n'arrive pas à
Ouais.
enlever toutes les céréales et qu'on garde les céréales sans gluten, et qu'on pense quand même à ces éléments-là, donc la fermentation, le bouillon, inclure des abats de temps en temps, faire
Ouais.
des boulettes avec du foie plutôt que faire des
Ouais.
boulettes avec que du haché, et faire des
Ouais.
petites choses comme ça, c'est déjà énorme. Et ça, oui. En tant que psychologue, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que malheureusement, parfois, avec ces approches, on voit que les personnes se stressent et qu'il y a une certaine rigidité aussi qui s'installe. Et effectivement, pour faire les choses, enfin voilà, c'est la fine ligne entre un perfectionnisme sain et un perfectionnisme pas sain. Et de nouveau, c'est très individuel. Ça dépend de chaque personne, mais c'est si important de ne pas tomber dans une anxiété, en fait, qui devient encore plus grande que comment on se sentait avant. Enfin, c'est des choses qui doivent être faites pour s'aimer et se donner ce qu'on mérite, ce que notre corps mérite. Et ça, c'est un autre, voilà, aspect que je travaille très souvent, c'est l'amour-propre, vraiment, et le fameux enfant intérieur qui a beaucoup de succès, mais c'est travailler sur cet enfant intérieur est vraiment quelque chose de très puissant, parce que c'est souvent de là que viennent ces lacunes en termes d'amour-propre. Mais donc, il faut que ça soit un plaisir et un désir de mieux manger et pas une contrainte et quelque chose qui apporte encore plus de stress parce qu'on sait à quel point le stress est tout aussi mauvais pour la flore intestinale, hein, pas juste pour la santé. Une des raisons pour laquelle le stress est si mauvais et qu'on le retrouve comme facteur clé dans tant de maladies, à la fois mentales, dans la dépression par exemple, et l'anxiété c'est énorme, mais même dans les maladies immunitaires. Et enfin voilà, le stress, on en parle tout le temps, le stress, le stress, le stress, mais c'est en partie une des relations, un des facteurs en fait qui médiateur de ce stress qui impacte la santé, c'est la flore intestinale, c'est parce que toutes les hormones de stress vont aller vraiment attaquer la flore intestinale et donc le système immunitaire. Et donc quand on dit ah, elle est toujours malade, elle est toujours enrhumée parce qu'elle est stressée, c'est pas faux. C'est réel, que c'est pas un mythe. C'est les personnes qui ont un système. C'est quoi être stressé? C'est avoir un système hormonal déréglé et vraiment certaines hormones qui prennent dessus, le fameux cortisol et d'autres. Et oui, c'est des hormones destructrices. C'est vraiment des hormones qui nous affaiblissent.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis toujours aussi, là, si tout ça, si je parle des toxines, moi, c'est beaucoup mon
Ouais.
sujet, toutes les
Bah
toxines
oui.
environnementales et tout. Mais je dis toujours aux gens autour de moi, à mes clientes, si faire ces changements-là ou si entendre parler de ça te stresse plus, il faut mettre la pédale douce parce que on veut pas qu'il y ait
Exactement.
un effet justement sur ta santé par rapport au fait que tu deviens trop anxieuse, puis là justement ça
Ouais.
va affecter ta santé intestinale et tout. Donc c'est vraiment important
Ouais.
que ça soit fait dans
Oui.
une espèce
Oui,
d'harmonie.
la régulation de stress, c'est en tant que psychologue, bien évidemment, du coup, je travaille aussi énormément sur ça parce que c'est un facteur très, très, très passionnant et très intéressant dans le sens où comment expliquer que certaines personnes ont une hygiène de vie déplorable et pourtant vont très bien? Eh bien, ces personnes-là, souvent, c'est parce que c'est des personnes qui ont un mental très solide, voilà, qui résiste au stress. Après aussi, bien évidemment, c'est un cercle vicieux parce que si on a une dysbiose intestinale, on a un système hormonal problématique. Ouais. Et donc les deux axes doivent être travaillés et c'est ça qui me passionne, c'est qu'en fonction de la personne et des prédispositions qu'elle a, alors on peut plutôt travailler sur l'axe biologique, donc renforcer le système hormonal et rééquilibrer le système hormonal pour qu'il n'y ait pas de réaction au stress inapproprié, en quelque sorte. Ouais. Mais si une personne n'est absolument pas disposée à travailler sur l'alimentation et les choses un peu plus biologiques, alors il y a aussi beaucoup qui peut être fait d'un point de vue purement thérapeutique, accompagnement, TCC, voilà. Ouais. Donc, ouais. Mais le stress, c'est voilà.
Énorme.
Donc, on est arrivé à en parler, mais c'est important de gérer son stress. C'est tout aussi important que de gérer sa flore intestinale.
Oui, exact. Donc, est-ce que tu pourrais... En fait, j'ai deux autres questions. qu'est-ce qui t'ont surprise? Parce que là, tu fais de la recherche justement sur tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surprise en recherche que tu fais puis tu t'as fait « Ah, ouf!
» Ouais. Alors, surprise, je ne sais... Je Peut-être pense pas que quand j'ai démarré... Ouais. Surtout les premiers articles sur lesquels j'ai travaillé étaient axés vraiment sur des pathologies mentales, donc sur l'anxiété, sur l'autisme, et j'étais à fond là-dedans, la dépression, donc, parce que j'étais vraiment dans le côté axe intestin-cerveau. Et puis peu à peu, en travaillant sur d'autres articles avec d'autres collègues sur des pathologies plus physiques, je pense que, oui, j'ai été surprise du facteur dans les maladies auto-immunes. C'est quelque chose à laquelle, forcément, n'étant pas médecin, je ne m'y connaissais pas énormément. Et donc, à force de lire des articles aussi sur le diabète, en fait, tout ce qui est maladie auto-immune et à quel point la rémission est possible, je pense que ça m'a surpris. Oui, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Quand je me suis lancée là-dedans, j'ai fini il y a quelques semaines, on a fini un article sur la maladie de Crohn, justement, et donc il nous a pris, ça faisait un an et demi que je travaillais sur cet article-là.
Wow.
Et oui, j'ai trouvé ça, en fait, à quel point...
c'est fascinant.
C'est vaste, c'est vaste et... C'est ces bactéries, parce qu'il y a des études qui se concentrent, on va dire, sur la partie un peu plus, moi je vois pas, c'est un peu comme un schéma, donc il y a la flore intestinale et puis il y a comment la modifier, et donc comment la modifier, il y a l'alimentation, il y a les probiotiques, il y a le sport d'ailleurs, la gestion du stress, et donc ça c'est une partie du schéma, et puis il y a la partie vraiment simplement purement chimique de la composition de la flore intestinale et les bactéries qui peuvent prendre le dessus, qui peuvent ne pas prendre le dessus. Et je dirais que de ce point de vue-là aussi, j'ai été surprise parce que au début, moi, je travaillais plus sur cette autre partie un peu plus loin dans l'équation, donc de quoi faire pour guérir ce système digestif. Mais lire ces articles vraiment de labo, par exemple, pour certaines pathologies, il y a une maladie qui s'appelle PANDAS. Je ne sais pas en français comment elle est traduite, mais c'est une maladie auto-immune de l'enfance.
Oui.
Les enfants, après une infection streptocoque, soudainement ont des symptômes anxieux, vraiment. Ils sont phobiques, mais du jour au lendemain, anxiété sociale... très élevé, et c'est tragique parce que très souvent on les diagnostique soit anxieux voire schizophrène parce qu'il y a parfois des hallucinations, voilà, mais en fait c'est une maladie auto-immune. Et alors par rapport à cette maladie là il y a beaucoup de recherches sur la flore intestinale, et une chose qui m'a surprise, c'est de voir que vraiment une étude a su démontrer au labo, en prenant des échantillons de flore intestinale, que les enfants atteints de cette pathologie avait une composition nettement différente de la flore, et donc que certaines bactéries étaient vraiment présentes en excès, certaines mauvaises bactéries, et que puis certaines bonnes bactéries avaient complètement disparu. Et donc oui, je pense que ce qui me surprend positivement, c'est de voir à quel point la recherche sur tout ça est en train d'augmenter de manière assez considérable ces dernières années. Et voilà, le côté très bio et ces personnes qui vraiment passent du temps en labo, en microscope, j'adore. Ça me surprend toujours de voir à quel point on arrive à démontrer certaines choses très tangibles. Se parler de l'alimentation, parler du stress, parler des choses un peu plus psycho, donc réduction des symptômes.
Ouais.
On peut toujours dire oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on est sûr ? Enfin, c'est pas des choses vraiment complètement objectivables. Après, je pense qu'il y a peu de choses qui sont complètement objectivables dans la vie. Mais voilà, ces études-là, bio, très chimiques, ça me surprend toujours. Et j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs voilà, qui font ces études en labo.
Pour ceux qui ont mal compris, la condition que Sophie parlait, ça s'appelle PANDAS. Mais je ne sais pas non plus l'acronyme au complet. Est-ce que tu le sais en anglais, l'acronyme au complet?
Ah oui, en anglais, oui. Je ne sais juste pas comment il est traduit en français.
Je ne me rappelle plus de mémoire, mais on en parle aussi beaucoup, nous.
En anglais, c'est pediatric. Auto-immune. Ouais. Disorder, neurological disorder associated with streptococcal infection. Donc, c'est une maladie auto-immune neurologique, pédiatrique. Donc, c'est un peu ça les mots-clés. Neurologique, pédiatrique. Suite à une infection streptocoque.
À la streptocoque. Ouais. Puis ça, en fait, moi, j'ai entendu parler justement dans l'interview que j'ai fait avec Darylyn, son enfant qui faisait de l'autisme, il disait qu'il y avait beaucoup d'enfants maintenant qui avaient ça, PANDAS, qui sont rentrés dans le spectre. Il est diagnostic dans le spectre, mais en fait, c'est pas ça. Puis moi, ce qui me donne de l'espoir, puis c'est pour ça aussi qu'on parle de ça aussi aujourd'hui, de connaître ça, justement, de comprendre la composition du microbiote comme tel. J'espère, et je crois que ça va arriver, qu'on va finir par se pencher là-dessus, puis que justement, quand on va voir un trouble neurologique ou un trouble de cette sorte-là, qu'on va avoir des thérapeutes, des médecins qui vont dire, OK, premièrement, on va aller voir la composition du microbiote intestinal. C'est comme aussi par rapport à l'autisme et ses troubles du développement, il y a beaucoup de problèmes de méthylation. Donc, pourquoi on va pas voir justement ça, à la base, c'est tout de suite au début, la composition du système du microbiote, la composition de tous les SNPs, pour voir, il est là le débalancement, donc comment on travaille dessus pour rétablir l'équilibre, c'est fascinant, ça me fascine. Moi aussi, l'aspect médical m'intéresse beaucoup, mais je suis pas là.
Mais oui, effectivement, ce serait bien. Après, le souci, c'est que les tests sont très chers, donc c'est toujours problématique. Moi, ce que je recommande, et aussi que la plupart des praticiens GAPS sont un peu dans cette idée-là, c'est avant de dépenser des centaines, parce que parfois, c'est vraiment des centaines d'euros, de déjà mettre en place ces choses qui, dans tous les cas, vont rétablir la dysbiose, c'est sûr.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est que dans certains cas de dysbiose très sévère, ou alors dans des cas où c'est des bactéries bien spécifiques qui ont pris le dessus et qui sont bien plus résistantes, alors ça peut être intéressant d'aller identifier quelle mauvaise bactérie est en train de proliférer et de s'amuser et de vivre sa meilleure vie, alors qu'on dirait qu'elle ne vit pas sa meilleure vie dans l'intestin. Pour la viser, parfois même, dans certaines maladies, avec un antibiotique très précis. Alors que les antibiotiques, bon, on évite quand c'est possible, puisque les antibiotiques n'ont pas de tri, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils détruisent toutes les bactéries de l'intestin, les bonnes comme les mauvaises.
Ouais.
Mais s'il y a une résistance et que malgré tous les changements d'hygiène de vie, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas l'air de changer, alors oui, faire des tests pour creuser qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans, ça peut être très intéressant, je pense. Ouais.
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des cas, parce que moi j'ai lu sur l'autisme, j'ai lu des cas justement d'un enfant qui était non-verbal par exemple, qui ou faisait pas de contact visuel, que seulement en enlevant les produits laitiers et le gluten, l'enfant devenait verbal par exemple. Donc j'imagine que dans ta pratique, certains cas. Peux-tu nous parler de
ouais.
un cas ou deux qui t'a
qui
t'ont marqué, qui te dit c'est tellement puissant comme diète, comme protocole.
Eh bien, écoute, je vais te parler d'un cas que j'ai suivi. J'avais fini la formation GAPS, je pense, depuis un mois. Et voilà, j'ai cette maman qui me contacte. Donc, c'était il y a 3 ans, qui me contacte pour son enfant qui avait 3-4 ans, était très petit. Mais pourtant, le psychiatre avait déjà posé le diagnostic. C'était pas un diagnostic officiel dans le sens où il était trop jeune pour passer certains tests, mais le psychiatre, voilà, avait déjà un peu pré-communiqué que tous les symptômes semblaient indiquer que l'enfant allait vers était sur le spectre autistique. Et effectivement, donc j'ai rencontré la maman, j'ai rencontré l'enfant. Il était totalement non-verbal, il regardait jamais dans les yeux, il mordait sa mère. Il était très agressif et la mère n'arrivait vraiment jamais à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il avait des excès de colère. À l'école, il ne sociabilisait pas. Donc voilà, tous des éléments vraiment. Il avait de l'eczéma. Donc ce n'était pas un enfant en bonne santé, que ce soit santé émotionnelle, santé physique, santé mentale, ça n'allait pas. Et donc pour toute la famille, c'était très compliqué. Et donc j'ai travaillé avec la maman pour mettre en place le régime. Alors bon, c'était une très bonne élève, hein, parce qu'elle était vraiment très motivée. Elle voulait absolument faire ce genre de changement. Et donc, ça a été très vite, parce qu'elle a très vite tout mis en place. Elle a vraiment tout fait. Et alors, les 2-3 premiers mois, on se voyait vraiment assez régulièrement, pour qu'elle avait des questions par rapport à certaines choses, comment les préparer. Et puis voilà, elle avait besoin aussi de se confier, de raconter comment ça se passait. Et puis, à un moment, plus de nouvelles. Et alors, après 3 mois, elle m'envoie un message. Et c'était un message vocal. Et je me rappelle, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle était en larmes dans le message vocal. Et elle disait, oui, ben, je suis désolée, je ne vous ai plus écrit. Mais parce que justement, ça allait mieux. Et du coup, je ne voyais pas trop la raison, entre guillemets, de vous contacter. Et ça, sincèrement, en tant que praticien de la santé, que psychologue, on est très contents si on n'a plus de nouvelles parce que tout va bien. Hein, donc,
ouais.
Et elle me dit, ça fait depuis qu'on ne s'est plus vu, le mois qui a suivi était encore un peu compliqué, mais puis en un coup, il a commencé à dire maman, et depuis, elle m'avait dit la date exacte où il avait dit maman dans le vocal, mais je ne m'en rappelle plus maintenant, mais donc elle me disait, ce jour-là, il a dit maman, et puis tous les jours, il y a eu quelque chose de nouveau. Elle me disait tous les jours, il y avait quelque chose qui se débloquait. Et alors, elle m'envoie ce message vocal en me disant, le psychiatre dit que ça a l'air d'aller, à l'école, les profs arrêtent de se plaindre. Elle était un peu inquiète, du coup, elle me disait, j'espère que ça va durer. Et donc, on a eu un rendez-vous pour un peu parler. Elle hésitait à arrêter GAPS, et je lui ai recommandé de continuer encore un peu. Parce qu'un autre aspect, justement, effectivement, dont on n'a pas parlé avec GAPS, qui est, je trouve, intéressant comparé à d'autres, c'est que l'idée n'est pas de le faire pour toujours. L'idée est qu'on va tellement à la fois désintoxiquer, à la fois renforcer la bonne flore, à la fois réparer la paroi intestinale. On va tellement donner tous les bons outils au corps pour se remettre de cette situation. L'idée est d'après pouvoir réintroduire, alors effectivement pas peut-être des McDonald's, des Snickers et des Kit Kats, mais de pouvoir réintroduire les céréales par exemple, et de pouvoir réintroduire de la farine de qualité utilisée dans du pain au levain, ou des choses comme ça. Et donc ça effectivement, j'ai oublié de le dire.
Oui, j'allais demander la question.
Ah mais voilà, moi je t'ai devancé.
En fait, c'est bon.
L'idée c'est de faire ça, ça dépend des personnes, on recommande 2 ans. Alors pour certaines pathologies très graves, autant rester là-dessus plus longtemps. Et là, comme il était jeune et que ça se passait si bien et que ça faisait 6 mois, je pense, j'ai quand même recommandé à la maman de continuer. Et là, aux dernières nouvelles, je pense qu'elle m'a envoyé un petit message il y a 6 mois. Ils étaient entre les deux, donc elle mangeait principalement GAPS, mais parfois elle introduisait certaines choses et ils continuaient à aller très bien. Elle est très bien. Et ce qui a été super avec ce cas-là, et c'est pour ça que j'ai pensé à raconter ce cas-là, c'est que j'ai eu la maman donc, qui m'envoie ce message pleine d'enthousiasme et d'une joie vraiment enfin son enfant ne parlait pas, ne la regardait pas dans les yeux et là soudainement il se passait tout ça, donc elle était vraiment très heureuse et totalement en extase. Et pas longtemps après, je pense un mois après déjà, donc j'avais eu ce message de la mère et puis j'ai eu une kiné qui m'appelle, qui se présente, donc je sais pas si on dit kiné au Canada, mais
kinésithérapeute.
Et en fait, elle travaille dans un centre à Bruxelles qui est spécialisé dans l'autisme et qui a une approche très pluridisciplinaire. Donc, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des kinés, justement, il y a des ergothérapeutes. Et c'est un centre, du coup, qui s'occupe vraiment des enfants sous tous les angles. Et donc, elle était la kiné. Et elle me dit, voilà, j'ai demandé votre contact à la maman de l'enfant parce que je suis choquée, moi je le suis depuis un an, et puis là soudainement au niveau moteur, parce qu'il avait aussi du coup, on avait posé l'étiquette dyspraxie,
okay.
On dit ça va vraiment beaucoup mieux, et on m'a dit que, enfin la maman m'a expliqué qu'elle a changé l'alimentation, et bref, et donc cette femme était très curieuse, et on a commencé à échanger, et on est encore en contact aujourd'hui, mais parce qu'elle était vraiment étonnée, dans le sens où elle travaillait quotidiennement avec des enfants sur le spectre, et que ça a été un switch, vraiment ça a été un switch, et c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait je vois des améliorations, heureusement, avec mon travail, sinon je continuerais pas à faire ce que je fais mais là j'ai vu quelque chose de voilà, en un coup il regardait dans les yeux, en un coup je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc quand la mère m'a dit que la seule chose qui avait changé c'était l'alimentation et rien d'autre, j'ai voulu vous appeler. Donc voilà, j'ai été en contact avec cette kiné et c'était un échange très enrichissant. Et depuis, elle recommande aussi souvent aux parents de lire le livre et de s'informer.
Et
de travailler sur ça.
C'est fascinant comme le corps demande seulement à revenir dans un équilibre. Puis si on lui donne la chance et les outils, ça peut arriver.
Et au plus tôt au mieux, effectivement, avec les enfants, c'est facile, parce que leur corps est beaucoup plus plastique, un peu vraiment plus malléable, enfin vraiment au plus jeune on est, au plus vite notre corps peut s'en sortir, mais aussi parce que avec les enfants, ce qui se passe, c'est que c'est les parents qui font ça pour leurs enfants. Et donc, voilà, ça c'est un peu plus le côté psychologue, mais on parlait de l'amour propre. Donc parfois, on a du mal à mettre certains changements en place, alors on veut faire ça. Je prends un exemple banal, mais on veut faire plus de sport parce qu'on sait que l'activité physique, c'est aussi super important pour le stress et pour la santé, et voilà. Mais pourtant, on veut, mais on sort jamais chez soi le matin, voilà. Il y a plein de choses dans la motivation et dans la psychologie de la motivation, mais une des facettes, c'est l'amour propre. C'est, je sais que je devrais faire ça pour moi, mais pourtant, je ne le fais pas. Et donc, ce qui est très intéressant, en mon avis, avec les enfants, c'est que là, ce n'est pas une question d'amour propre, c'est une question d'amour maternel. Et l'amour maternel, c'est quelque chose de très puissant, parce que souvent, les mamans... Elle ferait peut-être pas ce changement-là pour elle. Alors, il y en a qui le font pour elle aussi, et je trouve que c'est le top du top, parce que souvent, elles vont du coup beaucoup mieux aussi. Elles ont une meilleure santé, elles sont moins stressées, elles ont moins de douleurs, elles ont plus d'énergie. Donc, c'est génial. Mais parfois, il y en a qui le font pour leur enfant et pas pour elles-mêmes. Et c'est la preuve de cet amour inconditionnel qui est l'amour maternel. Et donc, ça, c'est très beau à voir quand on travaille avec les enfants aussi.
C'est sûr.
Ils se font aider par leur mère et c'est pas eux. C'est plus facile de travailler avec un enfant parce qu'il peut rouspéter. Oui, il va rouspéter au début et ne pas être content. Et certains enfants autistes vont vraiment avoir des crises de violence parce qu'ils veulent, leur sucre, ils veulent leur... Donc là, souvent, on travaille avec la méthode ABA, donc du reconditionnement positif et des choses comme ça. Mais ils ont beau rouspéter, si la mère a décidé qu'elle allait faire ça pour l'enfant, ça va se mettre en place. Et donc ça, c'est très satisfaisant avec les enfants.
Puis comme tu dis, justement, les changements, souvent, on va voir assez rapidement des améliorations. Donc, c'est encourageant pour l'enfant qui se sent souvent, justement, incompris et tout. Puis là, il se dit, d'un coup, les gens autour de moi commencent à me comprendre. Je me sens mieux. Donc, je me dis dans leur tête, ça doit être, mais ce que maman a fait, c'est bon, OK, je vais en manger de ça.
Mais tout à fait, une autre maman que j'ai pas suivie personnellement, mais on discutait et elle a fait GAPS pour son enfant. m'expliquait qu'après un mois, l'enfant avait compris à quel point c'était en train de l'aider, parce que c'était un enfant qui avait, il était donc sur le spectre autistique, et il avait des énormes soucis digestifs. Et donc lui, simplement, ce qu'il ressentait, ce qu'il arrivait à verbaliser, en tout cas qu'il ressentait, ouais. Et il n'avait pas un langage verbal très développé, mais il arrivait à expliquer qu'il n'avait plus mal au ventre, et que du coup, il était constipé, et soudainement, il ne l'était plus. Donc ça, il arrivait à montrer lui-même en tant qu'enfant de 8 ans, je pense, cette satisfaction, voilà, de se sentir beaucoup mieux d'un point de vue digestif. Et alors, il avait créé le lien, il avait compris. Et donc, ce qui se passait, c'est que quand sa mère sortait des aliments pour cuisiner pour elle, il allait prendre le paquet, regarder et dire « pas sucre, pas sucre ».
Ah oui. Parce
qu'il n'avait pas un langage, voilà, encore très développé. Mais déjà beaucoup mieux, ça allait déjà mieux. Et oui, la mère me racontait ça en me disant « mais j'étais choquée ». Il vérifiait lui-même, alors qu'au début,
il voulait rien savoir.
Il pétait les plombs. Ouais. Là, il vérifiait et il disait « pas sucre, pas sucre ». Et il ne voulait pas de sucre. Et quand les invités amenaient des chocolats, par exemple, il les prenait. Elle m'avait raconté aussi, c'était marrant, elle me disait « les invités sont avec des chocolats. J'avais oublié de les prévenir ». Ce qui démontre encore une fois que tous ces changements ne sont pas faciles à mettre en place. Ouais. Donc, elle voit les invités arriver avec du chocolat, elle se dit « oh mon Dieu, il va les prendre, s'enfuir, il va aller en manger 50 en un coup ». Parce que ça, les parents d'enfants avec des troubles du développement savent à quel point ça peut être une sorte de raptus, voilà, un moment où ils vont en un coup manger une quantité de sucre énorme, surtout si on les a un peu privés. Donc, elle voit l'enfant prendre le chocolat, elle se dit « oh mon Dieu, il va tout manger en un coup ». Il va aller super mal demain, il va avoir des troubles digestifs pas possibles, etc. Non, il a pris la boîte, mais ça c'était un peu plus loin, c'était après 2-3 mois, il me semble. Et il a dit à maman, poubelle.
Ah ouais, ah, c'est puissant. Dire,
oui, c'est puissant, et je pense que aussi c'est encourageant pour les parents qui se disent, ben, si je fais ça, je vais juste torturer mon enfant. La vérité est que probablement, oui, au début, peut-être, vous aurez cette sensation-là, parce que surtout le sucre, parce que là, on parle du sucre, c'est une drogue. Il faut vraiment comprendre que c'est vraiment comme une drogue, vraiment, vraiment. Ouais. Pour les adultes, tout comme pour les enfants, mais pour les enfants qui ont des problèmes de ce type-là, encore plus. Donc oui, au début, vous allez avoir l'impression de les torturer, mais tout comme on a l'impression de torturer un alcoolique qui arrête de consommer de l'alcool. Donc au début, ça risque d'être compliqué et de faire mal au cœur, mais il y a une suite. Et ça, je trouve que c'est important aussi à mentionner. Oui. Donc ni de minimiser cette chose-là qui est très compliquée, c'est compliqué. Mais de rappeler qu'il y a un après qui
Il y a la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est ça. Ouais. Puis... En fait, ces enfants-là, justement, tu sais, tu dis, ils sont accros au sucre. C'est pour ça aussi que ces enfants-là, souvent, ils sont accros au blanc, qu'on dit. Ils veulent les pâtes, ils veulent le pain, ils veulent tout ce qui nourrit ces mauvaises bactéries dans leur système. Donc, puis eux, ils savent pas eux-mêmes pourquoi ils veulent ça, mais ils veulent que ça, souvent. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est difficile de faire ces changements-là. Ouais. C'est sûr que c'est difficile.
Oui, et je recommande dans ces cas-là de travailler avec des praticiens à bas. Il y a des praticiens qui sont vraiment formés à ça. Et c'est Behavioral Analysis, l'acronyme. Ça marche très, très bien.
Ouais. Super. Donc là, maintenant que tu connais bien cette diète et que tu l'appliques et que tu as du succès, j'ai vu maintenant que une des choses qui m'a attirée vers toi aussi, c'est j'ai quelqu'un qui peut venir me parler de GAPS en français sur mon podcast. parce que oui, j'aurais pu trouver quelqu'un qui fait ça en anglais, mais je me disais, elle le fait, puis en plus, elle l'applique. Donc toi, tu formes aussi maintenant?
Oui, c'est tout récent. Oui.
OK.
Oui, puis, on a... Vas-y, je t'en prie.
Et à qui ça s'adresse, cette formation-là? À des professionnels de la santé, principalement?
Oui, c'est pour les professionnels de la santé. Dans le futur, on espère aussi traduire. Souvent, en fait, c'est une formation qui existe depuis 10 ans aux États-Unis. La compagnie s'appelle GAPS Training. Et donc, nous, on n'a pas du tout, avec ma collègue Béatrice, qui est naturopathe, on n'a pas créé une formation.
Non.
Chose qui est très compliquée. Donc, je pense que toutes les deux, on ne se serait pas lancé là-dedans. Mais on a simplement, en coopérant avec l'unité américaine, tout traduit. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que c'est une formation de 3 mois avec 90 heures de contenu, plein de vidéos, plein d'articles. Enfin, c'est une formation vraiment assez dense. Donc, ça nous a pris presque 2 ans de traduire tout le contenu.
Waouh.
Et là, on a fini de tout traduire. Et donc, oui, on a lancé la formation. On a démarré hier. On a démarré hier
avec
la première classe. Oui, oui, oui. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Que dans la version anglaise, il y a plusieurs formations qui existent. Il y a la formation pour praticien. Et puis, il y a la formation aussi pour être coach. Et donc, la formation pour être coach est ouverte, on va dire, à un public un peu plus grand. C'est-à-dire qu'il ne faut pas spécialement pratiquer en tant que médecin ou kiné ou psychologue ou ostéopathe. Il ne faut pas avoir un diplôme dans le secteur de la santé.
Oui.
On peut tout simplement se former pour être coach. Mais pour l'instant, en français, ce n'est que la formation praticien. Ça nous a déjà pris beaucoup de temps, donc on va se limiter à ça, voir la demande, ce qui se passe dans les prochains mois. Mais ça n'est pas exclu qu'on fasse aussi la formation coach dans les années à venir. Mais pour l'instant, malheureusement, pour les praticiens de la santé. Mais donc, si vous êtes praticien de la santé, n'hésitez pas.
Mm-hmm. Voilà. Oui, effectivement. Et je vous souhaite vraiment un beau succès avec ça parce que je pense que
c'est
important de faire connaître ça pour la santé de nos enfants.
Oui, tout à fait.
On s'en était parlé. Je voulais poser une dernière question pour clore l'entrevue. Quel est le premier petit pas pour les parents soit qu'ils ont un diagnostic ou soit qu'ils veulent intégrer la diète GAPS ou quelle est la première chose que tu crois qu'ils doivent faire? Tu sais, certains vont dire, mais d'abord, ils doivent accepter la différence, le diagnostic. Mais vu que tu travailles en psychologie et que parfois, justement, il n'y a pas nécessairement un diagnostic qui est posé avant, mais qu'on met en place des outils. Mm-hmm. Qu'est-ce qui serait, selon toi, le premier pas, le premier petit pas à faire?
Je réfléchis, hein, parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Et d'un point de vue plus psycho, justement, ou d'un point de vue plus alimentaire, tu me poses
les deux. On va en faire un psycho puis un alimentaire. Go!
Ok, chouette. Alors, point de vue psycho, je dirais s'entourer. De plusieurs manières, que ce soit de professionnels avec qui on se sent entendu, parce que quelque chose aussi que j'observe beaucoup, surtout chez les parents qui ont des enfants avec des troubles du développement, enfin voilà, qui ont des enfants différents, on va le dire comme ça, c'est qu'ils consultent des professionnels, mais souvent ils se sentent pas réellement écoutés, pas réellement entendus, il y a beaucoup de frustration, j'entends plein d'histoires. Et donc, une chose que je dirais, c'est dans ce conseil de s'entourer, c'est de ne pas se contenter de comment on s'entoure. Donc, si vous n'avez pas l'impression que ce soit votre médecin, votre pédiatre, votre psychiatre, votre psychologue, votre logopède ou orthophoniste, je ne sais pas comment on dit au Canada, mais donc speech therapist, toutes ces personnes qui entourent votre enfant d'un point de vue professionnel, si vous n'avez pas l'impression que ça sert à quelque chose et surtout qu'il y a une belle énergie, trouvez-en d'autres. Il y a autant de professionnels de la santé qu'il n'y a de humains. Et parfois, ça matche plus avec certaines personnes que d'autres. Mais écoutez un peu votre gut feeling, donc votre instinct. Et soyez entouré de personnes qui vous donnent la sensation de réellement être entouré, d'un point de vue professionnel. Et puis, d'un point de vue personnel, un peu la même chose. Ne restez pas seul. La communauté, c'est très important. Que ce soit la famille, je dirais la vraie famille directe, ou la famille qu'on se crée, ne restez pas seul. Ne restez pas seul et entourez-vous, demandez de l'aide, demandez du soutien. Quelque chose, par exemple, même dans la mise en place du coup de GAPS ou d'autres protocoles alimentaires comme ça. Ce qui est super, c'est quand les parents s'unissent et qu'ils se motivent et qu'ils font des séances de batch cooking ensemble. Et alors, ils passent tout leur dimanche à cuisiner ensemble, mais dans la bonne humeur et dans l'amour et vraiment dans cet esprit de communauté. Et alors, ils rentrent chez eux avec leur Tupperware qu'ils ont passé littéralement 8 heures à en remplir. Mais comme ça, pendant le reste de la semaine, ils sont un peu plus libres. Ils ont déjà... Mais donc, entourez-vous. Ça, point de vue, un peu plus... même si c'est un peu compliqué de séparer les deux, mais point de vue plus psycho, je dirais de s'entourer, vraiment. Bon et de point. Ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte et de travailler, s'il y a de la honte, travailler sur ça, travailler sur le fait de se libérer de ces émotions négatives. Et ouais.
Ouais. Puis du point de vue alimentaire, là, avec GAPS?
Du point de vue alimentaire, justement, moi, je... Oh!
Mon chien. Et voilà, je disais qu'elle allait faire ça un jour. À un moment donné. En espérant qu'il arrête, là. Oscar!
On y croit. Voilà, c'est bon. Il nous a entendu. Point de vue alimentaire, moi, je dirais principalement d'enlever tout ce qui est transformé. Avant même... d'enlever le sucre ou d'enlever le gluten ou sur les fruits, c'est du sucre. Et donc, si on peut remplacer les Kit Kat et les Snickers et voilà, les chips par des fruits.
De vrais
par,
aliments.
Voilà, des vrais aliments, exactement, comme tu dis. Je dirais que c'est un premier pas qui est, j'allais dire facile, mais pas vraiment, parce que dans certains cas, c'est déjà très, très, très compliqué d'enlever ces choses-là. Moi, je dirais de se concentrer sur ça comme premier petit pas. Et puis, si on arrive à faire ça et que les résultats sont encourageants et qu'on a envie de creuser plus loin, alors oui, moi, GAPS, bien évidemment, je recommande.
Oui, je recommande. C'est nécessaire, ouais. Super. Merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi. Merci à toi.
C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment contente. J'espère que tous les auditeurs sont contents aussi.
Alors, J'espère que ça donnera de l'intérêt, de l'énergie positive, de l'espoir, quoi que ce soit. Oui.
Super. Alors, je te souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À toi aussi. Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis oublie pas que le but c'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.